Nous enchaînons tout de suite sur la leçon de tango en profitant du tonus. Et un, et deux, et trois, et quatre, tango!
Buenos días, chers auditeurs, et bienvenidos pour ce deuxième numéro de Buena Onda sur les ondes de Transistor. Toutes les deux semaines, on vous propose de décoller pour l'Amérique latine en notre compagnie. Pour vous, on décortique l'actualité brûlante, on vous parle info insolite et culture, on partage nos bons plans, tout ça accompagné de musique et de bonne humeur. Alors aujourd'hui, l'équipe de bord est essentiellement féminine et elle vous a préparé une superbe émission. Autour de moi se trouvent Léa,
hola,
Clémence,
bonjour,
et Camilla.
Bonjour.
Aujourd'hui, on vous emmène au Brésil, rue Burdeau à Lyon, mais aussi au cinéma. Et tout de suite, direction le Mexique.
Revenons sur les faits. Le mercredi 4 mars, Omar Treviño, chef du sanguinaire cartel des Zetas, a été arrêté dans l'état de Nuevo León, au nord-est du Mexique. La capture de celui qu'on nomme le Z42 intervient 5 jours après celle d'un autre gros narcotrafiquant, Servando Gómez, alias La Tuta, chef du cartel des Caballeros Templarios ou Chevaliers Templiers, dans l'état du Michoacán. Aurore, peux-tu nous faire un bref récapitulatif de cette guerre sanguinaire entre cartels et contre les cartels qui agitent le pays depuis plusieurs décennies ?
Le sujet est complexe et vaste, mais bon, je vais tenter de vous donner une vision synthétique de la situation. Les cartels sont comme des organisations parfaitement structurées, depuis la production jusqu'à la distribution, contrôlant ainsi toute la chaîne de ce business illégal, mais néanmoins très rentable, de la vente de drogue en particulier. Surtout depuis les années 80, lorsque le prix de la coca a augmenté de manière spectaculaire, alléchant ainsi de nombreux petits producteurs dont les terres ne rendaient pas assez pour vivre correctement, et surtout des mafieux véreux. C'est alors que se produisit le boom des cartels au Mexique, dont la situation frontalière avec les États-Unis leur offrait une place de choix dans le business de la cocaïne. L'enjeu des cartels est clair. Le but est de contrôler le marché local et l'acheminement de la drogue vers les États-Unis. Il est alors aisé de deviner pourquoi les rivalités engendrent autant de violence entre eux. La guerre de la drogue au Mexique, lancée en 2006 par Calderón et menée depuis par Vicente Fox et l'actuel président Enrique Peña Nieto contre les narcotrafiquants, a entraîné la mort de 80 000 personnes selon un bilan d'août 2014, nombre jusque-là jamais égalé.
Et peux-tu nous présenter les deux groupes dont les chefs ont récemment été arrêtés, Los Zetas y Los Caballeros Templarios ?
Le gang des Zetas a été créé en 1997 par une trentaine de déserteurs du groupe des forces spéciales de l'armée mexicaine. D'abord intégrés dans le cartel du Golfe, les Zetas se désolidarisent ensuite et déclarent la guerre à leurs successeurs pour l'acheminement de la drogue via le littoral atlantique. Ils signent leur crime d'un Z sur les cadavres mutilés de leurs victimes, souvent amputés ou décapités. On peut dire que leurs affaires ont fructifié puisqu'ils se trouvent désormais dans une vingtaine d'États mexicains et dépassent même les frontières nationales pour s'étendre en Amérique centrale et aux États-Unis. Depuis 2013, leur chef était Omar Treviño, surnommé Z42, celui-là même qui a été arrêté. Sa tête était mise à prix pour 2 millions de dollars au Mexique. Quant aux Caballeros Templarios, l'originalité de ce cartel, c'est qu'il est aussi une secte religieuse. Petit détail ragoûtant, lors du rite initiatique, les nouveaux adeptes doivent manger du cœur humain et jurer fidélité à une sorte de Bible illustrée par El Chayo, chef messianique de cette mafia. Et non, ça ne rigole pas. Cette secte est aussi connue pour ce qu'on appelle la videoguerra, puisque Monsieur Gomez, alias La Tuta ou El Profe, est spécialiste de son image médiatique. Il aime à poster des vidéos où on le voit en compagnie de personnalités politiques et de grands entrepreneurs pour semer la méfiance envers le gouvernement.
Et ces cartels sont-ils exclusivement spécialisés dans le trafic de drogue ou bien tentent-ils, disons, une diversification de leurs activités professionnelles ?
Comme l'indique un article du Monde datant du 4 mars 2015, le cartel des Zetas a étendu ses activités aux raquettes, à la piraterie, au vol de carburant et aux enlèvements d'émigrés. Quant aux chevaliers templiers, ils tirent leurs revenus du trafic de méthamphétamine, des rançons et plus récemment du racket des producteurs de citrons et d'avocats.
Médiatiquement, Peña Nieto essaye de présenter ses arrestations comme des succès, nous rappelle Le Monde. Mais sa popularité reste au plus bas des sondages depuis la disparition, fin 2014, de 43 étudiants enlevés par des policiers municipaux et des narcotrafiquants de l'état de Guerrero et vraisemblablement assassinés selon la version officielle.
En effet, le quotidien Excelsior a publié le 2 mars un sondage qui indique que 59% des Mexicains rejettent la guerre de la drogue, étant donné le nombre hallucinant de victimes depuis 8 ans. D'ailleurs, Ricardo Ravelo, cité par Le Monde, auteur de l'ouvrage « Cetas, la franchise criminelle », a dit, début mars à la radio, que ces captures sont des coups médiatiques qui n'affectent pas les structures financières et politiques mafieuses. Pour lui, le gouvernement élimine des têtes, mais ne s'attaque pas au business des cartels. Le problème reste entier. Et pour les cartels, la question est de savoir qui sera le prochain successeur. Mais j'ai une question à te poser. J'aimerais savoir si toi, en tant que Mexicaine, tu penses qu'il y a une ambiance générale influencée par le narcotrafic quand tu te rends là-bas ?
Eh bien, vu que les cartels restent dans des territoires bien précis, ce n'est pas une ambiance générale qu'on ressent dans tout le pays. Et on peut aller dans certains coins qui restent en marge de cette ambiance meurtrière. Mais à mon avis, ce qui me semble un peu préoccupant, c'est surtout la culture narco qui prend de plus en plus d'ampleur parmi les jeunes, qui pensent qu'en fait c'est un synonyme de cool ou de réussite sociale. Ça passe par le style vestimentaire, assez bling-bling, mais surtout aussi, ce qui est très à la mode, ce sont les chansons, connues comme les narco-corridos, qui reprennent le folklore musical traditionnel en idéalisant le style de vie et le succès économique des narcos.
Fui soldado de la mafia, siempre defendí la plaza. Desde plebe todo el tiempo anduve al tiro. Solo que aquella mañana empezaría la...
¿Por qué no te callas?
Un peu de tendresse, de mignonitude maintenant pour l'info insolite du jour.
Eh oui, le 15 mars a vu le jour, pour la première fois au Brésil, une petite lionne blanche. Clara, de son joli prénom, est née dans le zoo de Beto Carrero World, dans l'état de Santa Catarina. Mais elle a été rejetée par sa mère. C'est donc les dresseurs qui élèvent cet adorable lionceau, à la couleur rare, issu d'une mutation génétique. Et si vous êtes curieux de voir à quoi ressemble le monstre, la Dépêche propose une petite vidéo adorable.
Chorava todo mundo, mas agora ninguém chora mais, chora mais, chora mais. Chorava todo mundo, mas agora ninguém chora mais, chora mais, chorava mais.
Quand on pense au Brésil, on pense à ses plages, à la verdure immense de la forêt amazonienne, aux fleuves qui serpentent sous le soleil. Bref, on imagine une nature paradisiaque. Mais qui s'imaginerait qu'en ce moment même, cet immense pays subit la pire sécheresse qu'il ait jamais connue depuis 85 ans ? C'est pourtant ce qu'annonce le titre du Courrier international du 25 janvier dernier, la grande soif de Sao Paulo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Clémence ?
Eh bien oui, Léa, en effet, la situation est alarmante. On est en pleine saison des pluies, et pourtant les réserves d'eau du Brésil continuent de chuter. La compagnie des eaux brésiliennes, la Sabesp, a lancé l'alerte rouge quant à la gestion de ses ressources en eau. Selon elle, au rythme actuel, il ne reste plus que 206 jours avant le tarissement total des réserves.
206 jours ? Mais c'est presque rien. Et on s'en rend compte seulement maintenant ?
En fait, la Sabesp avait déjà lancé l'alerte il y a plus d'un an, en janvier 2014. Et des mesures de rationnement avaient déjà été prises, comme des coupures d'eau un jour sur deux, le fait de réduire la pression dans les robinets. La Sabesp a même lancé des opérations bonus, en récompensant les foyers qui faisaient le plus d'économies.
Et ça n'a pas suffi ?
Eh bien, ça a permis de réduire la consommation d'eau de 23%. Mais ce n'est vraiment pas assez par rapport à la situation. Et puis, surtout, cet effort d'économie n'a pas été partagé par tous et n'a pas duré suffisamment longtemps.
Donc encore une question d'intérêt politique, non ?
C'est ça. Selon le Courrier international, le Rodifio, une mesure d'approvisionnement alternée des citadins, un jour sur deux, était prévue dès le mois de janvier. Et l'éventualité d'un rationnement a été tour à tour envisagée, puis niée par l'équipe du gouverneur de l'État de Sao Paulo, Geraldo Alckmin. Car les élections au poste de gouverneur ont eu lieu en octobre et le candidat sortant, réélu, a minimisé le problème pendant la campagne, histoire de gagner des voix et de ne pas effrayer la population. Mais du coup, les Brésiliens n'ont pas vraiment tous pris conscience du problème.
Et maintenant, on en est où ?
Eh bien, depuis janvier, le discours officiel a changé et les autorités publiques ont commencé à prendre de nouvelles mesures en imposant des surtaxes sur les consommations excessives, en prévoyant de nouveaux rationnements et surtout en poussant les entreprises à s'organiser en consortium pour capter et distribuer l'eau et qu'il y ait moins de gâchis. Mais la situation est vraiment très inquiétante, d'un point de vue social déjà, car les Brésiliens voient leurs besoins primaires menacés. Les autorités avaient en janvier annoncé de couper l'eau 5 jours par semaine. Mais aussi économique, puisque l'agriculture représente une grande part de la consommation d'eau du Brésil et que les industries ne peuvent pas non plus fonctionner sans eau.
Pourtant, quand on pense à tous les fleuves présents sur le territoire, on a tous en tête l'Amazone, mais il y a aussi, entre autres, le Tocantin-Araguaia, le Paraná, Paraguay, Uruguay et le São Francisco. Bref, on ne s'imagine pas que le Brésil puisse manquer d'eau. Bon, d'accord, il fait chaud, mais quand même. À quoi est due cette sécheresse alors ?
Et oui, le plus terrible, c'est que le Brésil est la plus grande richesse en eau de la planète, avec 13% des réserves mondiales. Mais ses ressources sont très inégalement réparties. Et en plus, la population brésilienne a été multipliée par 4 en 75 ans, en particulier dans la zone sud-est du pays, c'est-à-dire dans la région de São Paulo. Plus de monde, ça veut dire plus de besoins en eau par rapport aux ressources, et ça n'arrange rien. Quand on pense que 25% des Brésiliens n'ont pas accès à l'eau potable. Mais le pire facteur, c'est bien sûr la pollution et la déforestation. La forêt amazonienne est censée être le poumon de la Terre et elle diminue chaque année davantage, à raison de 40 000 km² en moins par an. Vous imaginez ? Sans parler des industries qui polluent toujours plus, rejettent leurs déchets dans le fleuve Amazon. En fait, le Brésil est le pays le plus polluant et le plus pollué. Charmant record. Bref, vous connaissez le refrain, réchauffement climatique, pollution des nappes, évaporation, tout ce qu'il faut pour donner lieu à une sécheresse monumentale qui est en train de menacer la vie de milliers de personnes.
Pour continuer dans la thématique, Clémence et Camilla nous ont dégoté un petit film qui traite des problèmes sociaux causés par la pénurie d'eau. Pouvez-vous nous en parler ?
Alors il s'agit d'une triple collaboration entre la France, le Mexique et l'Espagne pour un film intitulé « Même la pluie, también la lluvia », sorti en 2010. C'est le résultat de la collaboration entre la réalisatrice espagnole Ifiar Bolein et son époux Paul Laverty, scénariste d'élection de Ken Loach.
Dans le film, on suit une double intrigue. Celle d'une équipe de cinéastes qui débarque en Bolivie afin de faire un film d'époque sur l'histoire de la conquista, et celle des révoltes sociales qui éclatent dans le pays, car les classes populaires, humiliées et fatiguées par les injustices sociales, revendiquent leur droit à bénéficier de l'eau.
Mais pourquoi avoir choisi d'entremêler ces deux histoires qui alternent entre fiction historique du XVIe siècle et documentaire sur les événements de 2000, en mettant en parallèle deux époques pourtant si éloignées ?
En fait, il s'agit de montrer que les injustices sociales sont toujours présentes et qu'il s'agit des mêmes problèmes de domination, d'humiliation et d'exploitation. Dans ce film, on voit l'équipe du jeune réalisateur, Sebastián, interprété par le Mexicain Gael García Bernal, qui a pour but de réaliser une œuvre belle et généreuse qui serait un hommage aux indigènes massacrés lors de la conquista, obligés d'apporter une certaine quantité d'or chaque jour ou risquer d'être mutilé ou tué. Le film dans le film montre ainsi l'exploitation et la cruauté de la domination espagnole, mais aussi le beau rôle de protestation des religieux anticolonialistes en opposition à Christophe Colomb, particulièrement celle des missionnaires Bartolomé de las Casas et d'Antonio de Montesquinos, qui sont les premiers opposants à l'esclavage et au génocide des Amérindiens.
Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les interprètes de ces personnages historiques rivalisent de beaux discours anticolonialistes. Mais ils restent longtemps aveugles aux problèmes bien contemporains que rencontrent les descendants des victimes auxquels leur film entend rendre hommage. Assez ironiquement, le réalisateur, trop impliqué dans son rêve de sublimation du passé, est incapable de voir les injustices et la réalité sociale qui se déroulent pourtant sous ses yeux. Bolein et Laverty se moquent ainsi de l'humanisme en pantoufles et du paternalisme de certains occidentaux et mettent subtilement en rapport les oppressions d'hier et celles d'aujourd'hui.
Oui, c'est assez marrant parce qu'on voit les figurants locaux qui ne correspondent pas du tout à l'ethnie découverte par les envahisseurs, mais ce qui compte au final, c'est qu'ils aient une tête d'Indien dans une sorte d'amalgame trop facile. Et on voit aussi que le producteur remplit son métier en rognant sur les salaires des 10 figurants qui sont pour leur part bien contents de trouver du travail.
C'est ça, et en plus, loin de compatir avec les révoltes populaires d'un peuple privé d'eau, marginalisé par une oligarchie dominante et exploité par des compagnies étrangères, l'équipe de tournage ne considère cette agitation que comme un élément perturbateur pour le tournage du film.
Ainsi, on a affaire à un long métrage qui s'interroge sur la nature post-coloniale de la chronique de l'histoire des opprimés par les oppresseurs. C'est assez courageux et novateur. Tu peux nous en dire un peu plus sur les événements de Cochabamba, cette petite ville où l'équipe de cinéma de Sebastián a décidé de mettre en scène la conquista espagnole ?
Oui. Cochabamba a été secouée par des violentes manifestations déclenchées par la privatisation du service public de l'eau au profit d'une multinationale américaine. En 2000, les habitants de Cochabamba ont dû se soulever contre l'expropriation d'un inestimable bien commun qui entraînait une hausse des tarifs insoutenable pour une population déjà durement frappée par la pauvreté. Violemment réprimée par le pouvoir de l'époque, cette révolte fit un mort et des centaines de blessés avant que le consortium étranger ne se retire et que la privatisation ne soit abandonnée. La guerre de l'eau est depuis considérée comme emblématique de la capacité de simples citoyens à faire échec aux intérêts de multinationales, aux dictats de la Banque mondiale et plus largement au libéralisme triomphant.
C'est vrai que le film est d'une grande efficacité, à la fois accessible et témoignant d'un engagement qui ne se résume pas à un constat misérabiliste et résigné. Et puis, les paysages sont magnifiques et le Mexicain Gael García Bernal ne gâche rien.
Ça ne m'étonne pas que l'Espagne l'ait choisi pour la représenter pour l'Oscar du meilleur film étranger.
Pour dénicher le bon plan lyonnais du jour, l'équipe de Buena Onda s'est beaucoup investie. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts.
Ouais, enfin, c'est sans effort que tu t'es goinfré. Bref, on a fait un petit tour du côté des pentes de la Croix-Rousse et on a décoté, pour vous, un bar-restaurant qui vous emmène illico en Amérique latine.
C'est au 5 rue Burdeau, à Lyon, qu'on s'est rendu pour y découvrir Tu Esquina. Nous, en tout cas, on a été conquises dès la première bouchée. Au menu, une sélection variée de tapas.
On vous conseille d'ailleurs les délicieuses croquetas et encore les sobresadas.
Des cocktails à tomber. Nous, on a choisi la carafe d'un litre de sangria. Oui, bon, on ne fait pas les choses à moitié à Buena Onda, mais on le fait, je vous rassure, avec modération.
Oh oui, avec modération, puisque après un plateau de tapas, on n'a pas eu peur. Et on s'est lancé vers des burritos et des tacos faits juste devant nous. On choisit tous les ingrédients, de la viande jusqu'à la sauce en passant par la garniture.
J'étais même surprise de voir qu'on pouvait mettre du cactus émincé.
Et en plus, les prix sont vraiment abordables. C'est l'endroit idéal pour se réunir entre amis autour d'une caipirinha, d'une Inca Cola ou d'une bière latina. On s'y précipite pour déguster des bons produits dans une salle aux couleurs chaudes et une playlist qui nous emmène direct en Amérique latine.
Bref, Buena Onda aime Tu Esquina. Alors empressez-vous d'y aller, vous ne le regretterez pas.
Aujourd'hui, l'expression du jour est « Quien se fue a Sevilla, perdió su silla ».
Littéralement, « Qui s'est rendu à Séville a perdu sa place ». Cette expression a pour équivalent français « Qui va à la chasse, perd sa place ».
Cette expression a toute une histoire.
Oui, vraisemblablement, on attribue cette expression à un événement historique qui remonte au XVe siècle sous le règne d'Henri IV, roi de Castille. Mais il faut savoir que l'expression a subi une légère altération puisqu'on disait à l'époque « Quien se fue de Sevilla, perdió su silla ». Soit qui part de Séville perd sa place. Enfin bref. Don Alonso de Fonseca, archevêque de Séville de sa fonction, se retrouve avec un neveu qu'on dit poltron et effronté à devoir placer. Don Alonso arrive à obtenir pour son neveu l'archevêché de Saint-Jacques de Compostelle et il l'envoie illico là-bas. Arrivé sur les lieux, le neveu se retrouve incapable de gérer le diocèse car on le dit trop jeune et tout le monde se dispute. Bref, il revient alors à Séville, demande à son oncle Don Alonso d'aller calmer les choses à Saint-Jacques. Don Alonso file à Saint-Jacques et laisse son neveu à Séville gérer le diocèse. Mais une fois le calme revenu, Don Alonso, qui revient à Séville, veut reprendre sa charge et son neveu l'en empêche. De là, qui part de Séville, perd sa place.
Ainsi que s'achève ce deuxième numéro de Buena Onda. Je remercie Clément pour son aide en régie, mais aussi Léa, Clémence et Camilla pour la préparation de cette émission et leur bonne humeur. Retrouvez tous les articles des thèmes d'actualité sur la page Facebook d'Enseguida, l'association Amérique latine de l'ENS de Lyon. Et on vous retrouve dans deux semaines pour le prochain numéro de
Buena Onda.